Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Installez-vous et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 8 décembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec des aides.
Des aides pour les discothèques fermées pour 4 semaines à partir de vendredi. Les charges seront couvertes à 100%. Pas question qu'elles perdent un euro pendant cette fermeture, a dit le ministre de l'économie. On verra ce qu'en pensent les patrons des boîtes de nuit. Ils étaient aujourd'hui à Bercy. Une arrestation à l'impact international. Un membre présumé du commando impliqué dans l'assassinat de Jamal Khashoggi a été arrêté aujourd'hui par la police française à l'aéroport de Roissy. Le journaliste saoudien a été tué il y a 3 ans en Turquie. À suivre aussi dans ce journal, un président qui veut prendre de la hauteur, Emmanuel Macron en déplacement à Bourges. Aujourd'hui, nous serons sur place. La France va-t-elle aussi boycotter diplomatiquement les JO de Pékin? Elle consulte ses partenaires pour le moment. Et pour finir, du ciné champagne avec la sortie demain des West Side Story version Spielberg, adaptation réussi, nous dira le service culture.
À 18h15, un jour dans le monde, nous allons jeter un œil ce soir sur l'accueil que font les étrangers de notre campagne électorale, les thèmes et les personnages qui émergent pour l'instant. Nous verrons ce qu'en pensent les Italiens. Nous irons faire un tout petit tour en Hongrie et nous parlerons aussi avec Roger Cohen, l'Américain, parce que bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais suivez mon regard. À 19h20, c'est le téléphone sonne avec Emmanuel Wargon. Ce soir, c'est la ministre du Logement. Elle défend une loi à l'Assemblée qui doit notamment prolonger l'obligation de construire des logements sociaux dans les villes. Nous parlerons aussi encadrement des loyers, précarité énergétique, dont nous avons d'ailleurs déjà parlé ici même. Nous parlerons, si vous le souhaitez, maison individuelle, le fameux non-sens écologique. On parle de votre logement, de son prix, de son coût. Et c'est le moment au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est un peu le retour du quoi qu'il en coûte.
Pas pour toutes les entreprises, bien sûr, mais pour un secteur en particulier, celui des boîtes de nuit. Les discothèques, donc, vont à nouveau devoir tirer le rideau pendant les fêtes de fin d'année. C'est la principale, voire unique restriction décidée hier lors du Conseil de défense sanitaire. Fermeture pendant 4 semaines à partir de vendredi. Le gouvernement s'apprête donc à mettre en place un dispositif d'accompagnement financier pour chaque établissement. Encore insuffisant, toutefois, pour les patrons des boîtes de nuit. Précision de Philippe Lefebvre.
Du côté du gouvernement, on se veut rassurant. Bruno Le Maire a annoncé le retour du chômage partiel pris en charge à 100% par l'État pour les salariés des boîtes de nuit. Il a également confirmé la prise en charge des coûts fixes des 1200 discothèques de l'Hexagone.
Un dispositif de charges fixes qui couvre l'intégralité des charges de ces entreprises, non pas 90% comme c'est le seuil aujourd'hui, mais 100% pour que notamment les boîtes de nuit ne perdent pas 1 euro avec cette fermeture et qu'on puisse couvrir toutes leurs charges, y compris la rémunération des gérants de boîtes de nuit.
Mais pour les professionnels de la nuit, le compte n'y est pas. Il manque notamment, selon eux, un fonds de solidarité qu'ils voudraient voir calculé sur les 3 meilleurs mois d'ouverture en 2021. Et Patrick Malves, le président du syndicat national des discothèques, se dit ce soir déçu par les annonces gouvernementales.
C'est très très court comme proposition pour nous aider. Et je pense que la grogne va être et la déception vont être immense dans la profession. Et que les entreprises vont arrêter. Ça c'est sûr et certain. Pour 100 et 150 établissements, c'est le coup de grâce.
Et ce soir, dans le milieu des boîtes de nuit, on fait également remarquer que pour le moment, nombre d'établissements n'ont toujours pas touché la prise en charge des frais fixes pour les 6 premiers mois de cette année, lorsque toutes les boîtes de nuit étaient fermées.
Philippe Lefebvre du service économie de France Inter. Le chef de l'État lui-même interpellé sur ce dossier des discothèques alors qu'il était en déplacement. Emmanuel Macron qui repart au contact de la France rurale depuis ce matin, visite aujourd'hui et demain dans le Cher et l'Allier. Un déplacement comme une immersion au contact des problèmes quotidien des Français, nous dit l'Élysée. Déambulation donc dans les rues de Vierzon ce matin, puis à Bourges cet après-midi. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Vous êtes à Bourges en direct, le président qui entend se montrer rassembleur et apaisant.
Autrement dit, loin du brouhaha de la campagne, comme le disent ses conseillers, ses concurrents, l'invective, Emmanuel Macron reste en surplomb, magnanime devant ce passant qui l'interpelle sur les attaques d'Éric Zemmour.
Non, il faut apaiser tout ça. Il faut prendre de la hauteur, mettre du calme. Notre pays, il a besoin d'ambition et de bienveillance.
Rassurant avec ce patron de boîte de nuit qui a la fâcheuse impression de toujours trinquer pour les autres.
Non, je vais vous dire.
On va tout respecter les clients, on sont vaccinés.
C'est pour ça que moi, je ne lâcherai pas les discothèques.
On lâchera pas. Là, vous nous avez lâché.
Non. Vraiment, tenez-moi. Je vous promets, on sera à vos côtés. Et dès qu'on peut, il ne faut pas que ni celles et ceux qui y vont, ni celles et ceux qui tiennent les discothèques se sentent stigmatisés. Ce n'est pas le cas.
compréhensif encore avec ces auxiliaires de vie qui ne se sentent pas assez valorisés.
On aide à l'autonomie.
Vous êtes des aides à l'autonomie. C'est ce qui permet justement à la personne de vivre dans la dignité.
Voilà.
Mais en apparence, le chef de l'État se tient bien loin de la bataille présidentielle. Les Français n'ont pas la tête à ça, assure-t-il en marge de sa visite. En réalité, cette façon d'opposer les débats politiciens à la vraie vie des Français, de se poser en garant de l'unité du pays face aux tenants de la division, c'est aussi une manière de répondre à ses adversaires.
Voilà Simon Le Baron en direct de Bourges avec Georges Thau, le président qui multiplie les déplacements ces derniers temps en France comme à l'étranger. Pas question d'y voir un chef de l'État en campagne, nous dit l'Élysée, mais l'opposition parlementaire, elle commence à s'agacer sérieusement. Emmanuel Macron utilise les moyens de l'État en vue de 2022. Écoutez le député LR Pierre-Henri Dumont.
Ça fait plusieurs semaines qu'Emmanuel Macron est en campagne. Je pense que ça n'a pas dû vous échapper. Quand il va dans la région des Hauts-de-France, quand Xavier Bertrand était candidat, et quand il dépense milliard après milliard chaque semaine l'argent des Français, Emmanuel Macron est en campagne avec le chéquier de la France. Et il est nécessaire maintenant de clarifier les situations. Le paysage politique de 2022 est quasiment au complet. On attend juste que le président arrête de faire des promesses et campagnes avec l'argent des Français et la dette des Français. C'est jamais arrivé d'avoir un président qui, à ce point, détourne les moyens de l'État pour faire sa propre campagne. Exemple, la présidence française de l'Union européenne qui va commencer d'ici moins d'un mois, alors qu'il était parfaitement possible de la décaler, de l'avancer d'un semestre ou de la reculer d'un semestre, comme les Allemands l'avaient fait à la fin des années 90. Emmanuel Macron va utiliser cette présidence française de l'Union européenne, non pas pour faire avancer les dossiers européens, mais pour se mettre en majesté au moment de la campagne présidentielle. C'est donc une utilisation des moyens de l'État à son propre profit.
Le député des Républicains Pierre-Henri Dumont avec Élodie Forêt.
C'est une arrestation inattendue qui a fait du bruit dans le monde entier.
L'arrestation ce matin à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle d'un des membres présumés du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Selon plusieurs sources policières et judiciaires, le suspect se nomme Khalid Al-Otaïbi, 33 ans. Il s'apprêtait à s'envoler pour Riyad. L'homme fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Turquie, là où le journaliste saoudien a été tué en 2018. Son corps démembré, jamais retrouvé. Khalid Al-Otaïbi a été placé en rétention judiciaire dans l'attente d'une éventuelle extradition vers Istanbul. On y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Il y aura bien des athlètes américains à Pékin pour les JO d'hiver, mais pas de diplomates ni de représentants officiels. Un boycott diplomatique décidé hier par Washington pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine et en particulier celle des Ouïghours. Colère de Pékin qui menace les États-Unis d'en payer le prix. Cette décision américaine va-t-elle pour autant convaincre d'autres pays de faire de même, et notamment la France? Bonsoir Marie-Pierre Vérot.
Bonsoir Sébastien.
À ce stade, la France a lancé des consultations avec ses partenaires.
Oui, l'objectif, c'est de trouver une position commune la plus large possible, même si ce n'est pas à 27, précise l'Élysée. Paris présidera l'Union au moment des Jeux, et il est en effet important de présenter un front uni face à Pékin. Pas question de voir chaque capitale réagir dans le désordre, ce qui pourrait entraîner des mesures de rétorsion ciblées de la part de la Chine. Alors, ces échanges sont pour l'heure informels, ils se déroulent au niveau des conseillers. Le sujet n'est d'ailleurs pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil européen la semaine prochaine, mais cela pourrait changer. Les tenants d'une position ferme de l'Union trouveront en tout cas une alliée dans la nouvelle chef de la diplomatie allemande qui prend ses fonctions demain. Annalena Baerbock n'a pas fait mystère de sa volonté de rompre avec la tiédeur des années Merkel face aux violations des droits de l'homme en Chine et en Russie. En tout cas, il est d'ores et déjà acquis que ni Emmanuel Macron ni Jean Castex ne fera le déplacement. Pas de représentation au niveau des chefs d'État ou de gouvernement. Une position qui pourrait être largement partagée par les 27. L'Élysée ne souhaite pas de boycott sportif afin de ne pas pénaliser les athlètes. Mais la présence de la ministre française des Sports à Pékin n'est-elle pas encore tranchée?
Marie-Pierre Vérot de la rédaction internationale de Radio France. En bref, encore à l'étranger, les Émirats Arabes Unis qui modifient leur repos hebdomadaire. Ce ne sera plus le vendredi, samedi, mais désormais le samedi, dimanche, afin de mieux s'aligner sur les marchés financiers internationaux. Comme un avion qui tombe, les témoins de l'effondrement d'un immeuble cette nuit dans le centre-ville de Sanary-sur-Mer, près de Toulon, sont encore sous le choc. Des tonnes de gravats sur plusieurs mètres de haut. Ce bâtiment ancien a été soufflé par une explosion d'origine encore inconnue, peut-être une fuite de gaz. Le bilan fait état d'un mort, de deux personnes disparues et de deux miraculés, une mère et son bébé. C'est le reportage sur place d'Olivier Martoc.
Les témoignages des riverains font froid dans le dos. À 3h50, la vieille ville de la petite cité balnéaire, située de part et d'autre du port, est secouée par une très forte explosion. tellement forte que Séraphin a cru qu'elle se produisait chez lui.
J'ai entendu une détonation très très forte. Je pensais que c'était un obus ou un avion qui s'est effondré sur l'immeuble, quoi. Et en fait, c'était pas mon immeuble. Ça me choque.
À Sanary-sur-Mer, à cette époque de l'année, tout le monde se connaît. Mireille, qui habite elle aussi un immeuble mitoyen de celui qui s'est effondré, est particulièrement touchée par ce drame.
Il y a le fils du Galion, Thibault, son papa, il m'a dit qu'il était décédé. Il y a le bébé et sa femme aussi est à l'hôpital. Moi, je ne suis pas très en état.
Depuis 4 heures ce matin, les pompiers se relaient sans relâche pour tenter de retrouver des victimes sous les décombres. Les chiens qui, dans les premières heures, avaient marqué la position de la famille du troisième étage dont parle Mireille, permettant, après des heures d'efforts, de retrouver vivant la maman et son bébé, âgés d'une dizaine de mois, n'ont relevé aucun autre signe de vie. Mais du côté des secours, les efforts se poursuivent, des galeries sont creusées et étayées, des centaines de kilos de gravats déblayés à la main pour éviter que tout ne s'effondre encore plus. Les opérations ne s'arrêteront ni avec la nuit, ni en raison de la pluie qui menace. Sanary, Olivier Martoc, France Inter.
On en vient à cette nouvelle étude inquiétante sur les effets de la dépakine, ce médicament de Sanofi dont on sait déjà qu'il provoque malformations et troubles du développement chez le fœtus. En clair, les enfants de ceux qui en ont pris ont été victimes, mais selon une étude publiée dans Birth Defects Research, les petits-enfants aussi sont menacés. La molécule active dans le médicament, le valproate, pourrait également avoir des conséquences graves sur les générations suivantes, Véronique Julien.
C'est une étude dite observationnelle. On a pris en tout 108 personnes exposées au valproate in utero, dans le ventre de leur mère donc, et qui en ont gardé des complications diverses. Ces 108 personnes, 85 femmes et 23 hommes, ont eu à leur tour des enfants, 187 enfants au total, qui eux n'ont jamais été exposés au valproate. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Près du quart de ces enfants ont des malformations eux-mêmes, aux mains, aux pieds, et près de la moitié, des troubles neurodéveloppementaux, autisme, déficit de l'attention, problème de langage, certains parfois ont même les deux. L'étude vaut ce qu'elle vaut, elle a ses limites, mais elle montre qu'il y a matière à se poser question. Le docteur Alain Braillon en est l'un des coordonnateurs.
C'est pas anecdotique, il y a un signal. On peut toujours trouver des biais dans les études, d'accord ? Mais là, c'est tellement énorme qu'il n'y a pas photo.
Pour ce médecin, comme pour l'association APESAC qui fédère les familles, cette étude doit conduire les pouvoirs publics à mener plus d'investigations sur cette question de l'impact transgénérationnel du valproate. Les enfants nés sans malformation, par exemple, risquent-ils d'avoir des enfants qui en ont? Cela peut-il sauter une génération? De quelle façon les gènes sont-ils impactés? Des enfants à naître issus de victimes, il va y en avoir beaucoup. D'après l'agence du médicament, la molécule commercialisée à partir de 1967 serait à l'origine de problèmes chez près de 35 000 personnes.
Et Véronique Julia, spécialiste Santé Inter.
Et puis Sébastien, ce sera sans doute l'un des grands succès de cette fin d'année au cinéma.
Et ça sort demain, West Side Story, comédie musicale culte dont l'adaptation au cinéma avait remporté 10 Oscars en 1962. Steven Spielberg, qui était hier sur Inter, a décidé de s'en emparer pour une nouvelle lecture. Résultat spectaculaire et engagé, Corinne Pellissier.
Dans cette nouvelle version imaginée par Spielberg, la distribution et les scènes de danse ont été complètement repensées. Le savoir-faire et la maîtrise du réalisateur sont partout, dans la mise en scène, les décors. Mais c'est surtout la dimension politique du film qui prend ici une autre ampleur à travers cette histoire d'amour brisée par la haine raciale qui n'a jamais résonné aussi fort après 4 années de présidence Trump. Face au projet de mur entre les États-Unis et le Mexique de l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, le cinéaste répond lui ici par un film inclusif et une plus grande reconnaissance aussi de la culture latino. Les portoricains des Sharks ne sont plus joués par des blancs, les répliques en espagnol pas toujours traduites, et le personnage garçon manqué d'Anybody dans la version d'origine est désormais joué par un comédien trans. Fou amoureux de comédie musicale depuis son enfance, Steven Spielberg rêvait depuis longtemps d'adapter West Side Story. La restitution de l'ambiance des années 50 est réussie, les chansons du livret toujours sublimes, interprétées par une nouvelle génération de comédiens qui donnent un coup de frais à l'ensemble, et même une revenante Rita Moreno dans un nouveau rôle pour assurer le lien avec le film original qui avait remporté en 62 10 Oscars.
Voilà, West Side Story en 3 mots au cinéma demain, c'est un film France Inter.
Et merci beaucoup Sébastien Logénie, merci. À tout de suite dans Un jour dans le monde, vous nous parlerez notamment de la quarantaine interminable des pauvres pilotes de Cathay Pacific. Ce soir, nous allons chez nos voisins et un petit peu au au-delà, voir comment ils regardent notre début de campagne électorale, les Italiens, les Américains notamment. Et puis, soyez avec nous dans le bruit du monde, parce qu'on prendra des nouvelles ce soir d'une jeune Afghane avec laquelle nous avons fait connaissance. Déjà, c'était à l'arrivée des Talibans. Elle nous racontait ce qu'était sa vie, elle nous la raconte encore. C'est un droit de suite auquel nous tenons particulièrement. Et puis, en deuxième heure, je vous le remets en tête, c'est le téléphone sonne avec Emmanuel Wargon, ce soir ministre du Logement. Et dans sa besace, vos questions, notamment sur la loi SRU qui est discutée en ce moment même à l'Assemblée. Vous savez ce que c'est cette loi? C'est celle qui oblige à 20% de logements sociaux dans les villes. Comment appuyer sur les maires récalcitrants qui sont les prioritaires? Nous pouvons parler aussi d'encadrement des loyers avec elle, comment l'étendre, de rénovation énergétique. Bref, on parle de vos logements, on parle de votre chez vous et vous avez la ministre pour vous entendre. Profitez-en. Ça se passe bien sûr au 01 45 24 7000.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Élodie Calac, bonsoir. Encore des pluies, Élodie, au programme.
Oui, bonsoir à tous. Des pluies, en effet, qui progressent vers l'est et le sud ce soir. Il va neiger en montagne vers 1000 à 1300 mètres. Encore beaucoup de vent, jusqu'à 90 à 110 km à l'heure près de la Manche. Demain, ça sera encore agité, du vent fort, des pluies dans l'est et en Corse. Et puis ailleurs, ce sont des averses qui prendront le relais. Elles seront fréquentes près de la Manche et sur le sud-ouest, avec parfois du grésil sur le littoral. Et en montagne, encore de la neige vers 600 à 700 mètres. Surtout sur les Alpes, d'ailleurs, elle tombera en abondance et le risque d'avalanche deviendra élevé.
Promettez-nous quelques éclaircies pour demain.
Mais ça s'éclaircira du Roussillon aux Bouches-du-Rhône l'après-midi. Et puis dès le matin, de l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie vers le centre-Val de Loire, le bassin parisien et le nord de la Seine, les températures seront en baisse, souvent 1 à 4 degrés le matin. Et l'après-midi, 5 à 8 degrés, mais encore 10 à 16 en Méditerranée.
Élodie Calac de Météo France. Merci Élodie, à tout à l'heure après 19h.